Bonjour à tous, c'est un nouveau numéro de Destination Haute-Provence que nous vous proposons, magazine de Fréquence Mistral en collaboration avec l'Office de Tourisme de Durance-Luberon, Verdon Agglomération et comme d'habitude, c'est un thème d'actualité que nous allons développer, une émission préparée et présentée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, les richesses aquatiques du territoire et plus particulièrement ses cours d'eau et lacs de loisirs. Des interviews nous emmèneront dans le Bas-Verdon à la rencontre d'une association de pêche, mais aussi à Oraison où l'on pêche également et où on se baigne au lac des Buissonnades. Nos invités en plateau, le directeur de l'Office de tourisme communautaire, Jean-Frédéric Gontier, ainsi qu'Odile Guillard pour le parc naturel régional du Verdon, et également Ludovic Ortega que la ville de Manosque a délégué pour aménager et développer le lac des Vanades. Merci à tous les trois d'être présents parmi nous. C'est une belle émission rafraîchissante pour annoncer notre saison estivale. Premier invité que j'accueille, Jean-Frédéric Gontier, directeur de l'Office de tourisme de DLV Agglo. Bonjour Jean-Frédéric.
Oui, bonjour François et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent ce matin.
La première question en cette période estivale très compliquée, elle est cruciale. On vit actuellement, vous le savez, une situation critique à cause du déficit pluviométrique. Est-ce que notre territoire est touché ?
Alors, les constats effectivement sont alarmants, hein, François, il faut le reconnaître. Il suffit de regarder les infos, il suffit de se balader sur le territoire pour se rendre compte justement des difficultés. Et effectivement, notre territoire est touché, notamment dans la partie Verdon, de Durance-Luberon-Verdon agglomération. Et je suis préoccupé car il me semble que les équilibres seront menacés durant cette saison estivale. Et pour les opérateurs touristiques que nous sommes, l'Office de tourisme et tous les opérateurs touristiques, nous aurons un défi à relever, celui de continuer à sensibiliser nos visiteurs au respect des milieux dans lesquels ils vont évoluer, aussi aux gestes responsables, éviter des consommations excessives d'eau pour le lavage de voitures ou autre. On voit des visiteurs le faire à des moments. Et puis faire preuve aussi et leur demander de faire preuve de compréhension face aux décisions administratives. On sent de temps en temps des gens agressifs quand on parle de fermeture de circuits de randonnée dans le Verdon pour des risques d'incendie ou autres. Et donc, nous sommes là pour leur expliquer tout cela. Mais je m'attends à une saison tendue. Mais je reste de toute manière très positif et je me dis qu'on arrivera à surmonter ces difficultés qui, pour le coup, ne seront de toute manière structurelles puisque je pense que ce sont des phénomènes qui vont se répéter d'année en année. Malheureusement, il va falloir retrouver des solutions annuelles.
Est-ce qu'on a déjà des indications en termes de fréquentation avec des réservations, par exemple ?
Oui, alors le niveau de réservation est très, très bon. Il est très, très haut, forcément, puisque nous avons vu arriver sur les années 2020-2021 toute une clientèle qui a découvert notre région, la région sud, mais également le Verdon, le Luberon, le pays de Manosque. Cette clientèle a été fidélisée quelquefois parce qu'ils se sont aperçus que finalement, à quelques encablures de leur domicile, ils trouvaient un territoire très accueillant avec des structures de qualité. Et donc effectivement, on s'attend à un niveau de fréquentation très élevé. Et puis l'autre phénomène qui se rajoute à cela, c'est le retour des clientèles européennes, très clairement, dans les réservations, et le retour aussi de certaines clientèles internationales.
Asiatiques ?
Asiatiques, mais pas que, américaines, canadiennes. Et autres. Et donc, effectivement, on s'attend à un bon niveau de fréquentation. Et il va falloir les uns les autres se souder pour justement bien les accueillir. Et puis, sans compter, et je le répète aussi souvent, les difficultés que nous avons, les opérateurs touristiques, à trouver aussi du personnel, des moyens humains qualifiés, motivés. Ça se rajoute aussi un petit peu à ces difficultés liées au phénomène météo.
Alors par rapport au thème de ce magazine, Jean-Frédéric, les cours d'eau et les lacs, ce sont des appelants réels pour les visiteurs ?
Oui, c'est clairement l'eau est clairement un élément d'attractivité pour notre économie touristique. Les cours d'eau, les plans d'eau que sont les Vanades à Manosque et les Buissonnades à Oraison sont des motifs de déplacement à la journée ou pour des séjours, hein, très clairement. On peut choisir une destination en fonction de cette thématique. À l'instar d'ailleurs de la neige pour les stations de sport d'hiver, hein, je veux dire l'eau en été, la neige en hiver, enfin, ce sont quand même des éléments qui sont incontournables. Ce sont des lieux de fraîcheur et récréatifs qui sont vraiment convoités. Voilà. Et ça, il faut l'admettre aussi quand on gère des zones, qu'on est sur des zones qui sont convoitées et il faut faire face à ces équilibres, finalement.
Et l'agglomération est là pour les valoriser également. Alors, comment se structure l'offre touristique sur les activités spécifiquement aquatiques?
Alors, juste avant de parler de structuration de l'offre, je voulais rappeler peut-être un chiffre, puisque c'est un chiffre que nous avons, grâce à l'observation que nous menons depuis le mois de mars, sur le secteur des basses-gorges du Verdon. Nous sommes en moyenne à 1000 personnes par jour sur le mois de mars dans le Bas-Verdon. Nous montons au mois de mai à 4000 personnes. Et finalement, ce sont des chiffres qui évoluent durant l'été, bien entendu. Ouais. C'est pour montrer aussi la quantité de la fréquentation, la quantité de personnes que nous accueillons à la journée, ce qui se cumule aussi aux personnes qui passent des nuitées. Et enfin, j'ai oublié tout à l'heure, parce que c'est important, on parle d'eau. Je rappelle aussi que nous avons la chance d'avoir une eau thermale sur ce territoire qui fait la réputation de Gréoux-les-Bains et qui est reconnue pour ses qualités depuis l'Antiquité aussi. Voilà, j'oubliais tout à l'heure de mentionner cela. Alors, vous parliez de structuration de l'offre. Effectivement, elle est différente pour moi selon si on se situe dans le Verdon ou autour d'un plan d'eau, comme les Vanades à Manosque ou les Buissonnades à Oraison. Sur les plans d'eau, nous sommes plutôt sur ce que j'appelle moi dans un modèle base de loisirs. Zone de loisirs remplissant plusieurs fonctions. Alors, ce sont des lieux de promenade, ce sont des lieux de détente à travers des restaurants, ce sont des lieux aussi d'activité, et je pense que M. Ortega en parlera tout à l'heure. Elle est souvent structurée par un gestionnaire autour d'équipements. Et enfin, dans le Verdon, il faut rappeler que nous sommes sur des zones qui sont réglementées. On ne fait pas ce que l'on veut dans le Verdon, il faut le rappeler. L'exploitation d'une activité de location nautique dépend d'une autorisation qui est donnée par EDF et les communes. On retrouve des zones de baignade surveillées ou pas. On retrouve également des zones de location d'embarcations, bateaux électriques, canoës, paddles, à Esparron, à Quinçon, à Saint-Julien-Plage, à Saint-Laurent-du-Verdon, à Montpezat et plus en aval autour du lac de Sainte-Croix, bien entendu. Et enfin, comment ne pas citer aussi le club nautique d'Esparron, qui structure aussi une activité de club autour de compétitions de voile et qui propose aussi toute l'année des stages encadrés. Voilà, c'est l'offre, elle se structure comme ça un petit peu dans le Bas-Verdon. En conclusion, je dirais que l'offre pour notre territoire, elle est importante et complémentaire. On voit bien qu'entre le lac d'Esparron et le plan d'eau des Vanades, il y a de la complémentarité. Il peut avoir aussi des clientèles qui fréquentent les deux zones.
Diversité, donc. Voilà.
Elle est de qualité aussi, c'est ce que la clientèle dit. Hein. On retrouve quand même de belles embarcations pour le Verdon ou de beaux équipements sur les Vanades. Mais elle est quelquefois limitée en termes de capacité d'accueil. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nombre d'embarcations dans le Bas-Verdon est limité. Et quand il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de bateaux. Et donc, c'est vrai qu'on a un phénomène comme ça de refus de la clientèle. Et enfin, c'est une offre aussi qui se renouvelle chaque année, en l'occurrence sur les plans d'eau. Mais M. Ortega en parlera certainement tout à l'heure.
Oui, avec un grand changement sur Manosque. Il y a aussi une nouveauté. Vous avez parlé d'Esparron, Jean-Frédéric. Il y a une nouveauté, et là, qui est due à l'Office de tourisme communautaire, c'est Verdon Croisière.
Oui, c'est notre actualité 2022. C'est l'actualité du territoire, parmi d'autres. Effectivement, c'est une nouvelle étape dans le développement de l'Office de tourisme, puisque nous avons racheté le bateau promenade Verdon Croisière, et nous proposerons à partir du 8 juillet jusqu'au 2 octobre cette saison des croisières commentées d'une heure au départ d'Esparron de Verdon. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour le territoire, puisque c'est une activité qui a connu trois saisons blanches quand même entre le départ de l'ancien gestionnaire et l'arrivée de l'Office de tourisme, appréciée aussi des visiteurs, et puis qui va ramener de la capacité d'accueil, parce qu'effectivement, quand on refuse sur des canoës, on peut très bien les embarquer sur le bateau promenade et leur permettre de finalement d'avoir une activité, ce qui n'était pas le cas depuis trois ans. Voilà l'actualité de l'Office de tourisme. Donc on est très content et ravi finalement de remettre en route cette activité attendue, parce que depuis quelques semaines, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Et c'est une aventure qui nous engage là pendant 10 ans, puisque nous avons une autorisation d'occupation temporaire d'espace pour 10 ans. Et nous avons investi pour 10 ans. Donc, nouvelle aventure pour l'Office de Tourisme, nouveau challenge.
Alors, juste un rappel, puisqu'on parle d'Esparron, et quelques remarques, vous pouvez vous en douter, Jean-Frédéric. Premièrement, c'est de dire que c'est la perle du Verdon, en fait, qui renaît, non pas de ses cendres, mais en tout cas, qui a été réhabilitée et rachetée par l'Office de Tourisme, et donc qui va avoir une activité florissante, on l'espère, ces temps-ci. Et puis, quand on dit Verdon Croisière, c'est absolument pas Costa, ce sont des moteurs électriques qui équipent la Perle du Verdon. Et donc, vous savez que les moteurs thermiques sont défendus sur le lac d'Esparron, sauf un.
Sauf pour les secours.
Et voilà. Donc, je vois que vous connaissez fort bien le dossier, tout aussi bien que moi, qui suis un utilisateur de tous ces territoires depuis des années. Merci Jean-Frédéric, vous restez
Merci
avec
François.
Nous, bien sûr. Vous savez qu'avant d'être des espaces de baignade et de plaisance, les lacs et rivières permettent l'exercice de la pêche. Et les associations halieutiques sont nombreuses et contribuent à préserver la biodiversité aquatique. Olivier Mouly est allé à la rencontre de l'association de pêche du Bas-Verdon, dont le gîte Avinon vient de recevoir le label Pêche. Je vous propose d'écouter Ludovic Laton, qui préside la PPMA du Bas-Verdon, et on se retrouve juste après.
Ludovic Laton, vous êtes secrétaire de l'association de pêche du Bas-Verdon.
Oui, on est une AAPPMA, une association agréée pour la pêche et les protections des milieux aquatiques. On est sous l'égide donc d'une fédération départementale, une fédération régionale et une fédération nationale. Du coup, on a en charge un secteur d'un territoire donc sur le nord-ouest du Var, et on dépend en fait des baux de pêche que l'on obtient auprès des propriétaires de la rivière. À savoir que le Verdon est une rivière privée où du coup il faut conventionner avec des propriétaires qui nous donnent les autorisations ou non de pouvoir pratiquer la pêche et la protection des milieux aquatiques par notre association sur ces territoires-là. Donc c'est un travail assez colossal sur notre secteur, entre les affluents qu'il peut y avoir, Mallory, Louanne, ainsi que le Verdon, c'est à peu près 450 parcelles qu'on a en veille et où on se rapproche des propriétaires pour avoir des baux de pêche en bonne et due forme. On a aussi des baux de pêche avec l'État, donc la Durance en fait partie, avec les gravières, certaines gravières en bord de Durance, puisque c'est une rivière domaniale qui appartient à l'État, et donc là c'est les domaines qui officient, ainsi qu'une partie du lac d'Esparron qui est varois, et où là c'est directement la fédération qui détient les baux de pêche et qui travaille directement avec l'État. C'est très territorialisé en effet, mais ça nous donne un sens dans un état de droit pour pouvoir agir sur les milieux et aussi avoir une certaine reconnaissance de notre travail et une certaine limite aussi pour ne pas faire n'importe quoi sur des territoires où on n'a rien à y faire parce qu'on n'a pas conventionné.
Ce qui est important, évidemment, au premier chef, c'est l'eau. Vous gérez la faune aquatique et la gestion aussi des débits d'eau, la qualité de l'eau, etc. Tout ça vous concerne ?
Oui, alors tout à fait. Alors, donc de gérer, non, puisque là, du coup, on est sous l'aval d'EDF, hein, donc avec une gestion industrielle de l'eau, hein, avec une répartition voilà, qui se fait avec le canal de Provence, les agriculteurs, les industriels et les collectivités, et avec une nécessité, bien sûr, de laisser de l'eau dans la rivière pour les milieux aquatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en fait, on participe à tout ce qui est réunion, mise en place de protocoles, de suivi d'études, etc., en lien avec aussi bien le parc naturel régional du Verdon, hein, qui est l'établissement qui s'occupe de la GEMAPI donc sur le territoire. On a quand même nos propres suivis, donc on suit nous la qualité de l'eau avec nos outils, donc on a notre propre réseau de thermographes, ce qui nous permet de voir la température de l'eau sur le Verdon, plusieurs secteurs, ainsi que sur les affluents. C'est une donnée fondamentale, on parle beaucoup de quantité d'eau. On a un débit réservé qui est stylé hein, sur le Verdon, mais si on a ce paramètre de température qui est dégradé ou qui va au-delà d'une certaine limite, on a beau avoir de l'eau, mais il n'y aura pas d'habitants dedans. Ou des habitants qui n'ont pas forcément quelque chose à y faire, on va dire, sur des espèces autres que la truite, qui est notre espèce cible sur le Bas-Verdon. On a ce suivi-là, on fait un suivi aussi sur les invertébrés, on fait un suivi régulier sur les jaugeages, donc on prend les débits à différents secteurs aussi du Bas-Verdon et les affluents pour suivre un petit peu l'évolution des débits en fonction de la saisonnalité, hein, même si, comme on le dit, il y a un débit réservé qui nous est délivré, mais il y a des pertes en ligne, il y a des résurgences qu'on ne voit pas, hein, des petites résurgences latérales, donc qui apportent aussi de l'eau fraîche, heureusement. On fait aussi tout un suivi sur les poissons. On a récemment fait une étude en équipant donc les truites sauvages qu'on avait capturées en pêche électrique avec des émetteurs pour voir la franchissabilité du pont de Vinon, qui est un des derniers ouvrages en fait, qui apporte des difficultés sur le secteur. Et voilà, donc on a une restitution officielle d'ailleurs vendredi prochain.
La situation actuelle est exceptionnelle, elle est presque dramatique. Il y a un manque d'eau absolument terrible qu'on n'arrivera sûrement pas à combler cette année en tout cas.
Oui, alors. Sur notre secteur, c'est un peu particulier. On est sur un secteur artificialisé complètement. Hein. Faut imaginer que le barrage d'Esperon est une source, entre guillemets. Hein. Le débit réservé est une source. Du coup, on est sur une vallée close, hein, avec aussi un soutien qui a porté sur le Mallory, donc un affluent rive gauche qui passe sous le canal EDF et le canal de Provence. Et il y a une petite décharge d'eau de 20-30 litres secondes à peu près qui nous est octroyé, donc du coup ça maintient 7 à 8 km de ce cours d'eau en survie, entre guillemets. Et par contre, bon, après le colosse, celui qui est complètement naturel, mais après là-dessus, nous, notre APPMA n'a pas la compétence sur ce territoire-là, mais bon, voilà, on suit ça de près, on voit que bon, les débits baissent de plus en plus. Je sais qu'il y a des assiettes au niveau de Roumoule, il me semble, donc voilà, ça commence à être inquiétant. Par contre, bon, voilà, comme je vous disais, nous, on surveille énormément la température parce que le débit, il ne bouge pas avec ce débit réservé-là, quasiment, hein, à part un peu la mise en place des fourrages la nuit, on s'aperçoit bien de la baisse des débits la nuit, hein, avec l'activation des fourrages, avec une sonde qui est à Vinon, là, où on voit bien les débits quasiment 8 trop près, donc voilà, on peut s'apercevoir de certaines choses. Voilà, un point de vigilance, et c'est là où, comme je vous disais, on surveille vraiment la thermie, parce que c'est vraiment le paramètre le plus important pour les poissons sur ce territoire-là. L'idée, c'est de bien connaître sa rivière, donc comme je disais, on fait la suivi thermique, on fait des pêches électriques, on fait des suivis des génétiques, on fait aussi des suivis de voir si le matelas alluvial fonctionne bien. On suit tous ces éléments-là, et quand on s'aperçoit qu'il y a quelques petits dysfonctionnements, on essaye de donner des coups de pouce, parce que comme je dis, on est complètement dans un milieu artificialisé, on essaye d'apporter un maximum de résilience sur ce territoire. Depuis 2017, on a mis à peu près 1000 tonnes de blocs de pierre, entre 500 kg et 1,5 tonne, pour diversifier les habitats, les écoulements. Du fait qu'on n'est plus d'apport de cailloux, et en fait on a dimensionné ça en fonction donc du débit réservé, du débit éclusé à Vinon, puisqu'on a une sortie d'eau de l'usine hydroélectrique de Vinon. En plus de tout ça, on réalise aussi des journées de sensibilisation au bord de l'eau avec des scolaires.
Il y a un gîte à Vinon qui vient de recevoir le label pêche.
Label hébergement pêche, donc c'est un label national qui est régi par un cahier des charges très strict. Tout pêcheur qui veut trouver une destination de vacances sur le terrain national peut avoir des critères en fonction de ce qu'il veut pêcher. Les hôtes en fait mettent à disposition tout un tas de matériel spécifique en fait pour le pêcheur. Ça peut aller d'un local pour faire sécher ses waders ou ses cuissardes ou ses tenues de pêche, d'avoir un frigo spécifique pour les appâts, ensuite toute une documentation sur la pêche avec des livres aussi bien techniques que littéraires, aussi retrouver nos actions sur le terrain. L'idée c'est de retrouver un standing entre guillemets profilé pour le pêcheur au sein du territoire national. Un message supplémentaire qui est important, c'est surtout, on a mis des panneaux de sensibilisation, des panneaux pédagogiques sur comment expliquer les cycles de l'eau, les cycles des invertébrés, etc. tout au long de la rivière. Lisez-les, il y a des QR codes qui vous renvoient sur certains sites institutionnels qui sont toujours intéressants à voir, et surtout pendant les vacances, quand on est sur son smartphone, c'est prendre 5 minutes, ça peut être intéressant de lire ce genre d'informations sur la politique de l'eau aussi en France. Il y a quelques liens institutionnels qui sont pas mal intéressants. Et après, on a fait aussi une communication au plus proche. Là où on a certaines difficultés, c'est mais bien sûr on comprend bien qu'on a une attractivité avec l'eau, hein, d'un point de vue au moins régional ou bassin extra-marseillais, avec beaucoup de gens qui viennent les week-ends, mais surtout touchez pas aux cailloux dans la rivière, ne faites pas de barrage dans la rivière, s'il vous plaît. On en a déjà assez. Les milieux sont déjà assez contraints en capacité. Ne jamais oublier qu'on est à un débit réservé à 2,3 mètres cubes secondes dans la vallée d'Esparon et que l'étiage naturel du Verdon, c'était environ 8 mètres cubes secondes à ce niveau-là. Donc, on est déjà en dessous depuis la mise en place de ces barrages-là. ne l'oublions jamais. Donc arrêtons d'apporter nos petits édifices récréatifs dans la rivière. Et parce qu'après, derrière, nous, ben, soit dans l'été, quand on a un peu de temps, on va les enlever, soit en septembre, ben, pendant quelques jours, on s'organise ça, et quand on fait ça, on ne fait pas autre chose.
Et puis en plus, la température augmente derrière ces petits barrages.
La température augmente, on piège des poissons juvéniles ou des invertébrés, enfin, on modifie les faciès. Et vraiment, on peut comprendre des fois de faire monter une petite ligne d'eau pour qu'un bébé patauge, mais... Achetez un gonflable, prenez un seau d'eau, mettez de l'eau dans ce gonflable-là, à proximité, à l'ombre, mais surtout ne faites pas de barrage de galets ou de cairns avec des pierres qui proviennent de l'eau. Faites des cairns, si vous voulez, sur les atterrissements, sur les berges, mais surtout pas avec des pierres dans l'eau, s'il vous plaît. Et pensez surtout qu'il y a des êtres vivants qui vivent, même si vous ne les voyez pas comme ça, il y a des êtres vivants dans la rivière, ils ont vraiment besoin qu'on limite nos impacts.
Si l'on souhaite vous contacter, vous avez un site, un téléphone.
On a un site internet qui s'appelle AAPPMA du Baverdon. Ensuite, on a un blog aussi qui s'appelle Baverdon sur Overblog. Et ensuite, un mail, c'est AAPPMA du Baverdon, tout attaché, @hotmail.fr. L'idée, c'est qu'on essaye de donner un maximum d'informations. On a la possibilité aussi de communiquer énormément grâce aux réseaux sociaux. Donc, on est sur Facebook, Instagram, Twitter.
Ludovic Laton pour l'association de pêche du Baverdon. Je précise que notre ami Olivier a réalisé une interview plus longue et plus complète que celle que nous venons d'entendre et elle sera en podcast très prochainement sur le site de Fréquence Mistral. Nous allons rester autour du Verdon avec notre prochaine invitée, Odile Guillard, qui représente le parc du Verdon. Bonjour Odile.
Bonjour.
Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Je suppose que le parc prend soin du cours d'eau dont il porte le nom.
Ah ben bien entendu, ça a été un objectif à la création du parc aussi, prendre soin de ce bien commun et de la ressource en eau.
Alors cette attention sur le milieu aquatique et sa gestion, c'est un souci constant pour le personnel et les adhérents du parc?
Oui, tout à fait, pour les élus, les partenaires, l'équipe technique qui est au service de ce territoire. Donc le parc naturel régional du Verdon anime un schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'échelle du bassin versant du Verdon. À savoir que le parc, c'est 46 communes à cheval sur les Alpes de Haute-Provence et le Var, mais le bassin versant du Verdon représente 69 communes. Il va du col à Alos, de la source du Verdon jusqu'à la confluence avec la Durance. Et le bassin versant est parti sur 4 départements et 69 communes. Donc bien
c'est
plus
large. C'est un territoire
large.
Qui est très large, très vaste.
Voilà. Et maintenant, il y a un établissement public qui s'appelle l'Épage Verdon et qui gère justement cette ressource en eau à l'échelle de ces 69 communes.
Alors, on est au début de l'été, de la saison estivale. La fréquence touristique, elle est considérable dans les gorges du Verdon et sur les lacs. Comment est assurée la sécurité du public?
Alors, la sécurité, elle est assurée de diverses manières. Il y a des pompiers, il y a des renforts qui sont présents chaque été. Et au niveau du parc, on recrute chaque été aussi des équipes d'éco-garde. Depuis quelques années, on essaye d'élargir un petit peu la saison des éco-gardes. Avant, ils étaient surtout concentrés sur juillet, août. Et maintenant, on arrive à recruter quelques éco-gardes un peu hors saison, puisqu'on a de la fréquentation quand même hors saison, notamment les grands week-ends et tout. Et du coup, les éco-gardes sont là pour vraiment veiller à informer, sensibiliser les visiteurs. Mais également aussi prévenir les secours s'il y a besoin. Donc ils peuvent faire des patrouilles diurnes la journée, mais aussi nocturnes parfois.
Ce sont des gens qui patrouillent à pied ?
À pied, en vélo aussi, sur certaines parties du territoire. Et également des patrouilles lacustres avec des services de l'État. Et on a aussi un véhicule porteur d'eau depuis 2 ans pour éteindre, essayer d'intervenir très rapidement sur des débuts de feu avant que les pompiers n'arrivent.
Donc en complément des DFCI et pompiers.
Exactement, voilà.
Vous avez parlé des éco-gardes. Vous avez combien d'effectifs au niveau des éco-gardes en pleine saison?
Alors, cette année, il y a 21 éco-gardes sur l'ensemble du territoire qui sont répartis en 3 secteurs. On a un secteur qu'on appelle Est, qui est plutôt autour de Saint-André, Castellane et Grande-Gorge, on va dire. Un secteur centre autour du lac de Sainte-Croix. et un secteur ouest autour du Bas-Verdon, donc secteur qui va de Vinon à les gorges de Baudinard.
Ce sont des personnes que vous recrutez en période estivale ou des permanents de votre équipe ?
Alors, sur les 21 éco-gardes, on a 3 à 4 permanents. Donc, il y a un coordinateur des éco-gardes qui s'appelle Antoine Prioul. Et ensuite, on a des éco-gardes, mais qui font des missions complémentaires. Donc, on a Stéphane Aublanc qui travaille aussi sur la randonnée pédestre. On a Timothée Depère qui travaille également sur le pastoralisme. Et voilà, donc on essaye aussi de pouvoir avoir des éco-gardes hors saison et du coup de pérenniser des postes en complétant avec d'autres missions sur lesquelles le parc travaille.
Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu la manière dont vous travaillez avec les pouvoirs publics, je pense notamment aux préfectures, les secours et les collectivités territoriales ?
Alors, on travaille très étroitement avec eux. Déjà, le parc, c'est un regroupement de collectivités, donc 46 communes, Alpes d'Haute-Provence et Var, deux départements et la région. Et ensuite, on travaille très étroitement avec les services de l'État. Le label Parc Naturel Régional est un label décerné par le ministère de l'Environnement. Et du coup, il y a des collaborations, mais sur tous les sujets, avec les services de l'État, avec les pompiers quand ça concerne les éco-gardes, les opérations de secours ou autres.
Les communes, je suppose.
Ben oui, les communes sont adhérentes en fait, hein, elles adhèrent au parc. Donc nous, on vient au service, on est au service des collectivités, l'équipe technique et le parc. Et en fait, le parc, il établit une charte, c'est-à-dire un document sur 15 ans qui est un projet de développement durable. On est en plein renouvellement là, de notre charte et qui fixe les grandes orientations et les grands objectifs. Et ça peut aller du domaine de l'agriculture à la gestion de l'eau. La gestion de l'eau, ça a vraiment été un objectif de création du parc en 1997, ainsi que la gestion touristique, puisqu'il y a 5 barrages hydroélectriques sur le territoire. Entre Castellane et Gréoux-les-Bains, qui font donc 5 retenues d'eau potable, d'eau d'irrigation et d'eau industrielle pour toute la région PACA, ce qui est important, hein. On a un grand réservoir d'eau de la région. Et spontanément, le dernier lac qui a été mis en eau, c'est le lac de Sainte-Croix, hein, une des plus grosses retenues, troisième lac de France en superficie. Et le tourisme s'est un peu développé de manière spontanée, donc il a fallu l'organiser, les communes se sont organisées pour essayer de gérer cette fréquentation touristique. Donc vraiment les deux objectifs de création à l'origine du parc, c'était la gestion de l'eau et la gestion du tourisme.
Vous avez évoqué le lac de Sainte-Croix qui est en souffrance actuellement à cause du déficit pluviométrique, comme le lac de Serponçon, qui sont des gros réservoirs d'eau et évidemment des territoires touristiques très très important dans les Alpes du Sud. Une autre question que je voulais vous poser, vous avez des indicateurs actuellement sur la fréquentation à venir du Verdon ?
Alors des indicateurs, c'est plutôt les offices de tourisme hein, qui les ont. Après, nous, on observe du monde sur le territoire, mais sur les capacités de réservation et tout, c'est plutôt les professionnels du tourisme et les offices de tourisme. Après, c'est une saison chaude, comme tout le monde peut le constater. Sèche, donc probablement qu'il va y avoir du monde et on se pose aussi des questions avec Serponçon qui est à moins 10 mètres, je crois, actuellement. Les calanques aussi, dont la calanque de Sugiton qui est soumise à réservation. Du coup, c'est vrai qu'on se pose un peu des questions par rapport à la fréquentation de cet été nécessairement. Chacun devra aussi faire très attention au respect des autres, au risque incendie. Il y a des réglementations qui existent sur toutes les retenues du Verdon. Ça peut paraître des contraintes pour les gens, surtout les gens du territoire ou de la région qui ont l'habitude de venir chez nous. Et avant, il n'y avait pas ces réglementations. Mais ces réglementations, elles sont vraiment là pour que le tourisme et les activités puissent perdurer dans le respect de la biodiversité, dans le respect des milieux aquatiques aussi, et dans le respect des autres usagers.
Et les équipes du Parc du Verdon sont là aussi pour faire respecter toutes ces conditions qui font que notre territoire il est incomparable à d'autres, il faut dire aussi. Et bon, pour le préserver, eh bien, il y a des professionnels qui sont là, il faut les écouter, ils ne sont pas là que pour embêter les visiteurs. Alors, merci beaucoup, Odile, de toutes ces précisions. Vous restez avec nous hein, pour cette émission, et vous le savez, les années 80, déjà, ont remodelé les Alpes de Haute-Provence avec la réalisation de l'autoroute, vous vous souvenez de ça ? Parallèlement aux autorisations de travaux pour l'A51, des aménagements ont été créés, et parmi ceux-ci, la création de lacs comme les Vanades à Manosque ou encore les Buissonnades à Oraison. Et avant de parler de Manosque, c'est à Oraison que je vous emmène, en compagnie de son maire, Benoît Gauvan, et de son adjoint en charge des Buissonnades, François Imbert, les Buissonnades qui sont une vraie valeur ajoutée à l'attractivité oraisonnaise. François Imbert, vous êtes adjoint au maire d'Oraison et vous avez ici à Oraison un lac, celui des Buissonnades. Depuis quand existe le lac des Buissonnades ?
Depuis les années 80, on a ce lac qui a été construit pour l'autoroute. Il y a trois lacs, le lac de baignade, le lac de pêche et le lac sud, qui est réservé aussi à la pêche.
On peut donc toujours pêcher ?
Oui, sur les deux premiers lacs on peut pêcher. Le lac de baignade, lui, est réservé à la baignade pendant la période estivale.
Alors justement, la baignade, vous avez un équipement, je suppose, pour accueillir des visiteurs et puis les résidents ?
Oui, on a nos sauveteurs qui sont là à partir du mois de juin et pour les trois mois d'été. Et ensuite, on a l'aquagame depuis, on va dire, 7 ans aujourd'hui, je pense.
C'est vous qui gérez ces activités ?
Oui, c'est moi, oui.
Vous avez des activités sur le lac de baignade ?
Oui, on a l'aquagame qui fait toute la partie jeu d'eau avec une location de pédalo. On a le restaurant, le lac d'eau, pour tout ce qui va être buvette, restauration. Depuis cette année, on a le Green Park Aventure, donc c'est un parc pour aérien. Et ensuite, on a le paintball sur l'ancienne piste de tracteur pulling.
C'est la municipalité qui gère ces équipements ?
Non, nous avons trois prestataires. Donc pour la partie paintball, c'est EXK Paintball. Pour le parcours aventure, c'est Green Park. Et pour les jeux d'eau, c'est Aquagame.
Est-ce que les touristes viennent en nombre autour des Buissonnades ?
On a un peu plus de 30 000 personnes qui viennent sur le mois de juillet-août.
Ils profitent également de la ville d'Oraison ?
Ah ben oui, ils la traversent, donc ils sont obligés d'y profiter, oui.
À vos côtés, le maire d'Oraison, Benoît Gauvan, c'est un outil attractif, le lac des Buissonnades ?
Oui, c'est un outil attractif. C'est une trentaine de milliers de visiteurs par an. Et puis, c'est quand même la vitrine de notre ville. C'est-à-dire que c'est un des points forts de la ville d'Oraison. Mais c'est quand même aussi d'abord un lieu qui est hyper fréquenté par les Oraisonnais, autant l'été que l'hiver, parce que c'est aussi quand même l'hiver un beau lieu de promenade de nos habitants.
Quand vous dites les Oraisonnais, ça veut dire les familles ?
Ça veut dire les familles, puisqu'on a vraiment un lac qui est très familial, avec une population qui vient à la fois profiter des activités, et puis du lac, qui vient pêcher et qui vient se promener, mais souvent des parents avec leurs enfants, sécurisés aussi par la baignade et nos sauveteurs. Donc écoutez, là-dessus, c'est très fréquenté.
Alors justement, vous êtes responsable de la sécurité sur votre commune. Comment ça se passe en période estivale ?
Alors, dans période estivale, on a donc 7 maîtres nageurs sauveteurs qui se relaient par équipe de 2. Ensuite, on a l'Aquagame qui, lui, a son propre service de sécurité. On a un gardien la nuit qui est payé par les prestataires. Et puis nous, un partenariat assez complet entre la police municipale et la gendarmerie pour faire des rondes fréquentes la journée et la nuit.
Est-ce qu'avec le système des offices de tourisme et des salons, etc., vous faites savoir qu'Oraison bénéficie d'un lac comme celui des Buissonnades ?
Alors de plus en plus, on a d'ailleurs le 14 juillet un film qui va être réalisé par l'Office du tourisme communautaire pour faire la promotion de ce lac.
Un équipement comme les Buissonnades, ça demande un sacré investissement pour une commune de votre taille.
Alors oui, on va à peu près investir 310 000 euros sur 2 ans. On a déjà investi cette année 160 000 euros avec une priorité qui a été mise. Et je veux remercier Bruno Chesnel, qui est mon adjoint aux personnes en situation de handicap, qui nous a aidés à construire un lac qui soit accessible à tous. Donc on a tout un cheminement qui permet aux fauteuils roulants de s'approcher au plus près de l'eau. On a un tir à l'eau qui est à disposition des personnes à mobilité réduite et qui leur permet d'accéder jusqu'à l'eau et de se baigner. Et c'est quand même quelque chose qu'on a voulu mettre en avant. On a aussi prévu l'achat de tables accessibles au PMR. On a aussi mis en place un cheminement piéton qui permet aux personnes malvoyantes de suivre une ligne de vie qui les emmène jusqu'à l'eau. Donc vraiment, le but de cette année, c'était de le rendre le plus accessible possible au maximum de population possible. Et puis l'année prochaine, on va continuer à investir. Donc on investit dans le parking, dans des espaces verts, dans un parcours pédagogique autour de la nature qui est autour de ce lac, et aussi tout ce qui est signalétique, parce qu'on avait quand même une carence en termes de signalétique pour aller jusqu'au lac, et puis pour se promener après autour du lac.
Est-ce qu'il existe des contrôles de la qualité de l'eau ?
Alors oui, il existe des contrôles de qualité de l'eau, on a une qualité d'eau excellente. En fait, on a plusieurs sources qui alimentent le lac, donc ce n'est pas un lac qui est alimenté par la nappe phréatique, donc l'eau est en perpétuel mouvement, et donc on a une excellente qualité d'eau. Alors des fois peut-être un peu plus fraîche que dans d'autres lacs de ce type, mais avec une qualité exceptionnelle.
Retour en plateau et en direct dans Destination Haute-Provence, Oraison à ses buissonnades, Manosque, c'est Vanade, un lac artificiel né lui aussi dans les années 80 et qui connaît depuis quelques jours une mutation importante. C'est le sujet que nous allons développer avec notre invité Ludovic Ortega. Bonjour, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Merci de m'avoir invité.
Alors, avant de parler des Vanades précisément, je rappelle Ludovic Ortega que vous n'êtes pas inconnu sur la place de Manosque, où vous gérez notamment le restaurant italien Il Gusto, place de l'Hôtel de Ville, et vous connaissez bien le secteur des animations aquatiques. Ce sont les raisons de votre candidature à la délégation de services publics qu'a lancé la municipalité Galtier ?
Non, les raisons sont tout autres. On a pu répondre à un appel d'offres il y a 4 ans de ça avec mon papa, qui aujourd'hui est parti, et j'ai tenu à y répondre pour aboutir le projet qui nous tenait à cœur avec mon père, et du coup c'est pour ça que j'y ai répondu avant tout. Et puis après, parce que le projet en lui-même était aussi très attrayant.
Entre-temps, il y a eu quand même un changement de municipalité important. Oui. On est passé de l'ère Bernard-Jean-Mé Peralta à l'ère Camille Galtier. Vous êtes donc en phase avec la municipalité sur ce renouveau des Vanades.
Tout à fait. On travaille en collaboration et on développe ensemble nos idées, et voilà.
On va aller en profondeur dans tout ce que vous proposez. Quelles sont justement les propositions nouvelles, actuelles et à venir aux Vanades ?
Ben à ce jour, aux Vanades, nous avons ouvert un parc acrobranche d'environ 9000 m². On va y installer aussi des jeux aquatiques gérés par l'UCPA pour la sécurité. Ensuite, il y aura aussi un terrain de paintball, des stades de foot de 6 contre 6, un centre yoga qui ouvrira en septembre. Et là, cette année, on fait de la petite restauration sur la brasserie. L'année prochaine, après, viendra se rajouter à ça un restaurant un peu plus haut de gamme pour essayer de convenir aux plus de personnes que possible. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Non, il manque quelque chose.
Qu'est-ce qu'il vous manque ?
Il manque le plus spectaculaire.
Ah, la tyrolienne.
Eh oui. Une tyrolienne, vous rendez compte, au-dessus du lac des Vanades, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Qui a eu cette idée, Ludovic ?
C'est mon idée, à la base. Ouais, je ne pensais pas que c'était possible de le faire. On y est arrivé, difficilement. Après plusieurs études sur les arbres, tout ça, pour rien abîmer, pour la sécurité de tous. Mais en fin de compte, ça marche plutôt bien. Les gens sont contents. La vitesse n'est pas excessive, donc on arrive calmement. Donc c'est super sympa, c'est vraiment à faire.
On passe de la Provence au Tyrol, vous vous rendez compte, c'est magnifique. Alors ces équipements et ces services, ça demande, je suppose, un encadrement spécifique.
Tout à fait. C'est pour ça que dans ces activités-là, je suis associé avec mon beau-frère, qui lui est diplômé, avec sa compagne, tous deux diplômés, et ils gèrent tout ce qui est acrobranche, tout ça. Et c'est pour ça que le centre aquatique, je me suis rapproché de professionnels tels que l'UCPA, qui est quand même une enseigne connue et compétente pour ces activités-là. C'est entre autres eux aussi qui vont surveiller la baignade publique. Et en même temps, il y a une autre équipe qui gérera le centre aquatique. Voilà.
C'est-à-dire que ça va compléter la surveillance déjà établie par la mairie ?
Non, toute la baignade surveillée est à mes frais et à ma charge.
D'accord.
Aujourd'hui, c'est moi qui dois l'encadrer. Donc pour mettre les moyens qu'il faut, ben, je me suis encadré aussi de l'UCPA et quelques agents municipaux qui restent aussi à ma charge en place aux Vanades.
C'est un sacré challenge quand même. Hein ?
Oui, c'est un gros challenge.
Vous avez une délégation de service public qui va courir pendant combien d'années ?
Alors, c'est 15 ans. Voilà, c'est 15 ans parce qu'en vue des investissements, je pense que c'était le minimum pour pouvoir amortir quelque chose et retomber sur nos pattes, quoi.
Je rappelle qu'en ce moment, aux Vanades, eh bien, on entend beaucoup de coups de marteau, beaucoup de ponceuses, etc., puisque vous êtes en train d'installer pas mal de petits bungalows, des cabanes. Il y a également des locations de karting, des choses comme ça qui ne se faisaient pas avant.
Oui, ça, c'est géré par l'entreprise Bachelas, les frères Bachas qui sont partenaires avec moi sur le lac des Vanades, où ils proposent la location de petits kartings, des petites randonnées au départ des Vanades qui partent dans les collines de Volx et Manosque. Donc c'est assez sympa, c'est très ludique. Non, on essaye d'animer le parc, parce qu'un parc animé, c'est un parc sécurisé et bien fréquenté, et c'est notre but, voilà.
Alors quand vous dites le parc, il faudra dire le parc des Vanades ou on continue à dire le lac des Vanades ?
Bon, on l'a appelé le parc aux Vanades.
Le parc aux Vanades.
Voilà.
Un beau nom. Alors la ville de Manosque assure que l'accès au lac restera gratuit pour l'instant, le parking aussi. Mais pour vos activités, elles sont payantes, Ludovic. Oui. Ce sont des tarifs abordables ?
Ben, on est très compétitif par rapport à la concurrence qu'il y a sur la région. On essaye toujours de se mettre un peu en dessous. Parce qu'on démarre, donc pour nous laisser un peu le bénéfice du doute. Mais après, oui, forcément, les investissements sont assez conséquents et on est obligé d'appliquer une tarification adéquate, quoi.
Oui, c'est logique.
Ouais.
Vous allez avoir des abonnements particuliers, des passes spéciaux pour les familles, des choses comme ça ?
Tout à fait. Tout va être proposé, donc c'est un peu prématuré parce qu'on a ouvert sur les chapeaux de roue depuis le 14 mai. On a voulu être en place pour cet été, donc on n'a pas eu le temps d'aboutir à notre projet. Mais c'est vrai qu'on a voulu taper un gros coup d'entrée pour montrer le changement. Mais après, tout ce qui est plus administratif et proposition commerciale viendra dans un second temps où là, on aura le temps de se poser. D'ailleurs, de partager un service de billetterie avec l'Office du tourisme. Voilà.
Donc, on sent bien que c'est une affaire qui commence.
C'est
ça, tout à fait. Et il faut évidemment excuser les tâtonnements. Évidemment. Vous allez vous revoir avec la mairie au fur et à mesure de votre exploitation ?
Oui. Tous les lundis, on entretient des réunions de mise au point Enfin, c'est surtout pour la sécurité, parce que nous recevons beaucoup de groupes de centre aéré, tout ça l'été. Et donc, le service des sports, tous les lundis, me reçoit et me donne la liste. Et on y répond, et voilà, pour les accueillir, les encadrer. Parce qu'il faut qu'il y ait des enfants, c'est des vies, il y a la baignade, donc il faut tout encadrer.
Il y a un danger particulier aux Vanades, outre l'hydrocution, malheureusement ça arrive tous les étés, c'est le danger incendie, parce que c'est très boisé. Mmh. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus, voire une action par rapport au public ?
Sincèrement, non. Ce que je peux vous dire, c'est que les pompiers aujourd'hui ont préparé une plateforme d'accès sur laquelle ils puiseraient l'eau du lac pour éteindre le feu. C'est la seule information que j'ai. Après, je ne pense pas qu'il y ait de gros moyens à disposition à ce jour, mis en place pour les feux de forêt. Donc il faut rester très très concentré sur la forêt et faire attention. C'est pour ça, bon, déjà à l'Acrobranche, mon beau-frère est ancien pompier, donc c'est bien de l'avoir sur place au quotidien. Mais oui, c'est à développer.
Est-ce qu'on peut recommander aux gens de ne pas fumer, d'éviter de fumer, parce que ça peut être extrêmement dangereux, quoi.
Bien
donc
sûr.
C'est vrai que fumer au bord de l'eau, à la rigueur, si on met pas son mégot dans le sable ou dans le gravier, bien sûr, pour les copains qui viennent après, quoi. Hein, tout simplement.
Bien.
Mais bon, on peut aussi arrêter de fumer pendant 2 heures, 3 heures, parce qu'il y a un réel risque aux Vanades comme ailleurs. Hein, d'ailleurs, donc c'est une bonne chose. Ludovic Ortega, ben, on vous souhaite de réussir ce challenge que représente votre délégation de service public. Je précise d'ailleurs que la ville de Manosque reste propriétaire du lac des Vanades et donc vous avez une délégation. On arrive à la fin de cette émission et je vais demander comme de tradition, à chacun d'entre vous un mot de conclusion. Je reste avec vous, Ludovic, puisque vous avez la parole. Qu'est-ce que vous en pensez de votre été qui arrive, justement, qui a l'air déjà bien occupé
Ça va être animé. J'espère qu'on va me laisser le temps, avant de faire son propre opinion, d'avancer dans mon projet pour qu'ensuite, on puisse juger, qu'on ne me juge pas trop tôt, qu'ils attendent un petit peu de voir ce que ça va donner. Voilà, on met tout en œuvre pour correspondre à toutes les personnes, à tout type de personnes. Voilà, sincèrement, c'est ça, de la bonne volonté, on en a plein. Des moyens, on en met beaucoup. Donc voilà, c'est du temps que ça, je ne peux pas le gérer. Donc s'ils peuvent être un peu plus indulgents avec ça, ça serait super.
Et vous avez l'aval, on le rappelle, de la ville de Manosque pour cette délégation.
C'est ça.
Bon été à vous et à tous vos équipes. C'est
également
une équipe nombreuse que vous avez autour de vous, je suppose.
Oui, on commence à être pas mal, oui.
Ouais, combien vous avez
Au restaurant, on est déjà 5 personnes. À l'acrobranche, on est 4 personnes. Au jeu aquatique, avec l'UCPA, on va être 12 personnes. Donc ça va faire du monde sur
c'est
le
bien,
parc.
C'est bien qu'il y ait du ouais. monde sur le lac des Vanades également aussi. C'est une bonne chose. Et puis je suppose que ce sont des gens qui sont compétents que vous avez recrutés.
On espère. L'avenir nous le dira.
Oui. Odile Guillard, le parc du Verdon est prêt pour cet été ?
Bah, on essaye. On est un petit peu inquiet voilà, par rapport à tous les risques qu'il y a, risques incendie. Donc moi, ce que je dirais aux auditeurs, c'est vraiment soyez prudents. Hein, la végétation est hyper sèche, donc pas de cigarettes, pas de feu, pas de camping gaz. Voilà, vraiment, soyez vraiment très vigilants, soyez économes sur la ressource en eau. On vit un stress hydrologique très important, un été et un printemps très sec, des niveaux d'eau vraiment, vraiment bas. Donc essayez au quotidien de faire des efforts voilà, chez vous pour essayer de préserver cette ressource qui est un bien commun. Voilà, et puis je souhaite à toutes et tous un bel été voilà, en restant vigilant.
Moi, je vais donner un tableau extrêmement sombre. Imaginez un petit peu le lit du Verdon sans eau. Voilà, c'est tout. C'est tout. Imaginez, et puis bon, vous verrez un peu si la vie est belle dans ces cas-là. Jean-Frédéric Gontier, pour l'Office de tourisme communautaire, vous êtes prêt, vous aussi, avec vos collègues pour cet été ?
Oui, on se prépare comme tous les professionnels autour de nous, bien entendu, et on s'y prépare depuis un petit moment quand même, puisqu'on rentre dans une phase plutôt d'accueil de nos visiteurs. Comme Ludovic Ortega, je demanderai aussi beaucoup d'indulgence, parce que c'est pas évident en ce moment avec les moyens humains. On essaie de faire face aussi, et je le redis, à ce problème de recrutement, et c'est important que la clientèle puisse être indulgente. Et j'invite les personnes qui ne connaissent pas le restaurant que gère Ludovic Ortega sur la place de la Ville à pousser les portes du restaurant pour montrer que finalement c'est un professionnel. Et c'est vrai que je le rejoins quand on démarre une activité pour nous, Verdon Croisière, pour Ludovic Ortega, le parc aux Vanades, eh ben, il va falloir être un petit peu indulgent et nous laisser la possibilité peut-être de nous roder aussi pour être encore plus préparé les prochaines années. Et enfin, effectivement, j'appelle aussi un petit peu au civisme de la clientèle locale, parce que on peut sensibiliser nos visiteurs. On a beaucoup plus de mal à toucher la clientèle locale qui ne pousse pas la porte de nos offices de tourisme et qui sont quelquefois un peu en marge de ce qu'il faudrait faire et pas toujours exemplaires, notamment sur la route, sur le plan de la sécurité routière. On voit des dépassements, on voit des comportements qui sont quelquefois compliqués, sans compter qu'il y a de temps en temps des mégots de cigarettes qui sont jetés par la fenêtre. Voilà. Donc les visiteurs aujourd'hui qui viennent nous voir sont des gens qui savent où ils viennent, qui sont quelquefois très respectueux de l'environnement et qui sont quelquefois très, très ennuyés de ce qu'ils voient par rapport aux habitants. Voilà, je le dis parce qu'on a ces retours dans nos offices de tourisme. Et enfin, je dirais juste à la clientèle locale, pousser la porte de nos offices de tourisme, qu'on soit en DLVA ou à Fort-Calquier ou dans le Haut-Verdon. Quand on ne peut pas faire une activité, on peut en proposer plein d'autres. C'est le cas, le Verdon, les deux plans d'eau, des Bussonades, des Vanades, voilà, des belles propositions complémentaires. Donc on ne peut pas faire une activité à Esparron, on peut peut-être la faire aux Vanades, à Manosque. Il y a de quoi, en tout cas, s'occuper pendant une journée ou pour un séjour. Donc poussez la porte de nos offices et on sera content de vous accueillir et de vous diriger vers toute l'offre que nos professionnels proposent, parce qu'il y en a quand même un paquet. Et enfin, vous dire aussi, François, que la saison, elle va être compliquée, mais combien elle est importante dans le modèle économique des entreprises locales, hein, parce qu'il n'y a pas, d'entreprise touristique, s'il n'y a pas d'été aujourd'hui, ça, il faut aussi le dire. Donc, c'est une saison compliquée, mais c'est une saison aussi très importante. Les équilibres sont menacés, mais encore une fois, je renvoie aussi à cette réflexion du modèle économique des entreprises qui repose aussi un peu essentiellement sur cette saison estivale.
Surtout après deux années compliquées qu'on a vécues. Et donc, effectivement, profiter des offres qui sont sur notre territoire, mais aussi respecter notre territoire. Ça, c'est très important et c'est valable aussi bien pour les touristes que pour les résidents. Merci à tous les trois d'avoir été nos
merci
invités.
Merci François,
merci beaucoup pour cette émission. Et puis merci aussi à notre ami Olivier qui assure cette régie avec une grande classe comme d'habitude. Et vous retrouverez évidemment Destination Haute-Provence sur notre site régulièrement sur Fréquence Mistral. Bonne journée, bon été à tous.
Thank you.